8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher.
Bienvenue à vous et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, Emmanuel Macron pourrait relancer la réforme des retraites en repoussant l'âge de départ à 64 ans. Est-ce que le climat est vraiment propice à une telle réforme ?
D'abord, je pense que c'est une réforme indispensable si on veut sauver le système par répartition. Il y a une méthode pour ça, mais rappelons-nous, soit l'âge, soit la baisse des pensions, soit l'augmentation des cotisations. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. La méthode, c'est une méthode qui doit faire appel, bien sûr, au dialogue social, au dialogue avec le Parlement, et il y a une fenêtre qui s'appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Est-ce que l'opinion est en état d'entendre cela? Vous savez, je viens de faire un tour, pas totalement complet, mais quasi complet des régions de France. Je peux vous dire que si on dit la vérité, si on dit les choses, 13 milliards aujourd'hui de déficit sur l'année 2020.
Oui, mais à quel prix? Est-ce que vous vous inquiétez, puisque vous avez fait ce tour de France, Gérard Larcher, d'une résurgence du virus social, des conflits sociaux dans une France qu'on décrit comme fracturée?
Voilà pourquoi il faut passer par le dialogue social, ça peut être fait, mais à un moment, il faut aussi le courage de la vérité, le courage de la décision. Et le Sénat a voté la réforme en 2019 et 2020 dans la diversité de la majorité sénatoriale. 64 ans, une conférence de financement, c'est le dialogue aussi avec les partenaires sociaux, la réalité de la pénibilité de certains métiers ou de carrières longues, et la question des toutes petites retraites qui sont... une inéquité sociale extrêmement forte.
Donc, est-ce qu'il y a ce courage? Est-ce qu'il y a, selon vous, cette volonté réformatrice?
Ça va dépendre. En tous les cas, nous, on y est prêts. On est prêts à un débat. Et c'est assez, pardonnez-moi, clair pour nous. Nous l'avons déjà voté deux années de suite.
C'est clair, mais ça dépendra aussi de la situation sanitaire. Nous parlions des fractures à l'instant, Gérard Larcher. Il en est question dans l'interview ce matin du président dans le magazine Elle. Emmanuel Macron déplore, je cite, une société qui se racialise et se dit être du côté universaliste. Voilà pour les mots. Est-ce qu'il l'applique en acte, le président ?
Écoutez, moi je suis pour le caractère universel de la République. Il faut que les choses soient claires autour des valeurs de la République. Nous venons d'avoir un débat au Parlement à la suite du discours du Mureau et des propositions du gouvernement. Il y a des signaux qui sont contradictoires.
Lesquels ?
Je vais prendre un exemple. Est-ce que, par exemple, la fermeture que nous proposions d'une association qui interdit des réunions au motif de mixité, d'ethnie, de race, elle est contraire à cet universalisme républicain. Et je pense que l'adjectif est extrêmement important. Les sorties scolaires sont pour nous des moments du temps scolaire. Donc les signes religieux ne doivent pas être abordés dans ces sorties scolaires.
Qu'est-ce que vous en concluez que
les listes communautaires... Eh bien, l'Assemblée nationale vient de supprimer ce travail du Sénat qui se basait sur la laïcité et l'universalisme républicain.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a les mots et les actes de la majorité? Ah bon, des contre-signaux?
Oui, c'est des contre-signaux. Mm-hmm. La réalité vraie, c'est cela. Et je dois dire qu'il en est du débat sur faut-il permettre aux assesseurs de porter des signes.
Débat houleux à l'Assemblée nationale.
Débat houleux. Pourtant, se rappeler la décision du Conseil d'État en 2002 sur la neutralité politique de l'assesseur. Eh bien, la neutralité religieuse fait partie de ces mêmes références.
Attendez, voilà pourquoi... Vous dites, Gérard Larcher, que cette neutralité religieuse est la même que la neutralité politique.
Oui,
donc le voile est un signe politique,
bien sûr,
selon vous, quand
c'est un signe qui peut être, et on doit se dire en plus, le faire dans le bureau de vote de M. Bardella, est-ce que ça n'était pas organisé pour une forme de provocation? Point d'interrogation, point d'exclamation.
Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez signé à ce moment-là? Vous auriez voté? Vous auriez protesté si vous avez vu
J'aurais
cette femme?
J'aurais fait une observation dans le procès verbal, c'est fait pour ça. On a des processus démocratiques.
Processus démocratique qui sont entravés, si je puis dire, par une vague de défiance et de désespérance. L'Assemblée nationale vient de lancer, Gérard Larcher, une mission pour lutter contre l'abstention au Sénat. Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour réduire cette fracture démocratique?
fait ces propositions de rénovation de la vie politique, de la vie publique, avec un principe. Et d'ailleurs, ça a été assez net dans ces élections régionales et départementales. En fait, ceux qui l'ont emporté, c'était ceux qui étaient dans la proximité, dans la réactivité, qui avaient répondu aux besoins des gens.
Vous allez me dire que vous aviez eu raison depuis longtemps de parler des territoires, de la proximité.
Mais je ne cesse de le répéter, la verticalité du pouvoir, ça n'est pas une bonne manière de gérer la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ben, ça veut dire que, par exemple, nos propositions de décentralisation, que nous allons aborder la semaine prochaine au Sénat, au travers d'un texte, faisons simple, il a changé de nom trois fois, 4D, et qui dit, on donne demain aux collectivités territoriales, par la subsidiarité, ça veut dire celui qui répond le mieux aux problèmes des gens du terrain, eh bien, ce sont les élus du territoire.
Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Vous entendez cette petite musique, Gérard Larcher, qui est celle de dire, eh bien, il faut peut-être revenir sur le non-cumul des mandats pour qu'il y ait une proximité véritablement.
Il nous faut surtout éviter, on le voit surtout à l'Assemblée nationale, cette déconnexion entre territoire et parlementaire et décision nationale. Dès 2018, nous le proposions au président de la République, au moment où il avait engagé la révision constitutionnelle. Et donc, ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet qui avait déjà été voté.
C'est-à-dire, on peut revenir sur le non-cumul
des mandats. Bien sûr, ça n'est pas un sujet tabou. Si on commence à se poser des interdits, je pense que le lien avec le territoire, c'est une des réponses majeures.
Donc le président
majeures,
du Sénat
c'est une des réponses
d'accord.
majeures. C'est aussi la responsabilité des politiques et des formations politiques de retrouver ce lien avec le territoire dans un pays qui
donc, attendez,
est fracturé.
Répondre à la fracture démocratique par un débat qui s'ouvre ou qui pourrait être ouvert sur le cumul, le non-cumul des mandats.
C'est pas le seul débat.
Non mais d'accord,
c'est
mais ça fait
débat.
Partie des
souvenez-vous,
débats.
Souvenez-vous, est-ce qu'il faut qu'un parlementaire ait un lien avec une circonscription? C'est le débat entre proportionnel et système majoritaire à deux tours. Je pense que les citoyens ont besoin de connaître celles et ceux qui les représentent.
Et,
ils doivent être attachés à un territoire. Et est-il interdit à ceux-là d'exercer, je n'ai pas dit 10, une fonction exécutive?
On a compris,
c'est un
le
vrai
débat est
sujet,
ouvert.
Ce lien avec le territoire, c'est consubstantiel. Au regard du Sénat.
Alors, autre sujet, à droite, Gérard Larcher, tous les regards sont désormais tournés après ces régionales vers Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, auréolé d'une nette victoire, malgré l'abstention. Mais il y a aussi Bruno Retailleau, Michel Barnier, peut-être David Lisnard. Est-ce qu'il faut, ce matin, vous le dites, accélérer l'échéancier pour choisir votre champion en vue de 2022 ?
Vous l'avez dit vous-même, c'est d'abord une victoire dimanche dans les régionales, mais aussi dans les départementales. Nous allons avoir ce matin le choix de président des départements. Il y aura plus de départements présidés par une présidente ou un président de la droite et du centre
que
dans ce pays.
Donc cette victoire. Les noms que je viens de vous citer sont déjà dans l'après,
oui,
hein, monsieur le président du Sénat.
Mais cette victoire nous oblige. Or, pour que nous sortions de la seule alternative qu'on nous proposait, c'est-à-dire un duel de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien, parce que la droite et le centre, on le voit dans ce pays, sont la première force politique, nous avons la nécessité d'avoir un seul candidat
nous
ou une seule candidate et de former autour de lui une équipe pour
Monsieur
la France.
Larcher, est-ce qu'il faut accélérer, c'était ma question, l'échéancier pour choisir
Écoutez,
votre champion?
Moi je pars d'un objectif inverse. Il nous faut, début novembre, avoir un candidat ou une candidate opérationnel pour conduire la campagne, pour proposer aux Françaises et aux Français, avec une équipe autour de lui, une alternative démocratique
novembre.
Autour de nos valeurs.
Mais alors, Gérard Larcher, il y a une bronca des sénateurs pour aller plus vite, simplement, je le dis. Je les cite sur
nous
le calendrier.
Un bureau politique, je parle de la famille des Républicains, la semaine prochaine. Jean Leonetti, à qui j'ai transmis le travail que j'avais fait autour du départage, nous fera un certain nombre de propositions.
Est-ce que vous avez le temps ? On dirait que vous attendez d'aller vers la défaite. Il y a une bronca des sénateurs pour aller plus vite.
Attends,
mais permettez-moi. Pierre Charon, qui a tiré la première salve. Il y a une motion qui a été organisée dans la foulée par Roger Karoutchi contre le calendrier de Christian Jacob. Qu'est-ce que vous répondez ce matin ?
J'ai bien entendu, puisque j'ai participé au moins à une partie de cette réunion.
Je m'en doute.
Le souhait d'accélérer la processus. Je pense que Jean Leonetti l'a bien entendu et qu'il fera la semaine prochaine. Je le pense, ainsi certain nombre de propositions. Mais l'objectif, c'est début novembre, on a un candidat ou une candidate opérationnel. Il faut, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, quel que soit le résultat, un candidat naturel. Il est naturel si les autres le ressentent. Se préparer à une procédure de départage. Je pense qu'en plus, cette procédure, elle peut renforcer le candidat ou la candidate. Et c'est ce à quoi nous allons continuer à travailler.
Je vais parler de ce système, mais là, vous ne vous dites pas, il faut renverser la table. La politique et la campagne est une guerre de mouvement. Qu'est-ce que vous attendez?
C'est de garder la table sur ses quatre pieds. C'est un principe. Mon seul objectif, c'est qu'on gagne, c'est qu'on l'emporte et qu'on n'ait qu'un seul candidat ou une seule candidate.
Alors ça, c'est
et
important.
Qu'on soit tous
mais comment
autour de
faire
lui.
Monsieur le Président du Sénat, quels arguments pour convaincre Xavier Bertrand de participer à ce système dont il ne cesse de dire qu'il n'en fera pas partie et qu'il ne s'y résoudra pas?
Écoutez, pour avoir rencontré tout le monde, l'avoir fait encore tout à fait récemment, je fais confiance au sens des responsabilités de chacun. Ils sont chacune et chacun persuadés qu'il nous faut qu'un seul candidat, une seule candidate. Et je fais confiance à ce sens qu'ils ont
candidat.
Du service de l'État. Et parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont gagné de manière assez exceptionnelle. Xavier Bertrand, c'est l'effondrement du Rassemblement National. C'est LREM qui avait monté cette stratégie pour tenter de l'affaiblir. Laminé, Valérie Pécresse, Laurent Bouquet, mais aussi Hervé Morin, eh bien, je suis persuadé aujourd'hui que nous allons pouvoir dégager ce candidat ou cette candidate.
Et s'il continue de s'imposer dans les sondages, Xavier Bertrand pourra vous dire, mais moi je suis le candidat naturel,
eh bien,
je suis le mieux placé pour déjouer le match.
Ce sera un constat collectif que nous ferons, parce qu'on n'est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, c'est parce que c'est partagé par les autres.
J'ai envie de savoir, peut-être ceux qui nous écoutent également, Monsieur le Président du Sénat, est-ce que vous êtes convaincu que Xavier Bertrand va vraiment se plier à une forme de primaire?
Mais ça n'est pas le sujet immédiatement.
Ah, c'est le vôtre
le
un
sujet,
petit peu.
Non, le sujet, c'est d'avoir un candidat ou une candidate opérationnelle à l'automne pour nous permettre d'offrir aux Français une alternative. Après, pardonnez-moi, c'est une question de méthode. Et je fais confiance à Jean Leonetti pour proposer au bureau politique, puis aux instances de la famille, parce
vous
qu'il
avez
y a
le
aussi
luxe d'attendre.
Un conseil national, un congrès.
Que c'est compliqué tout cela.
Je pense qu'il ne faut pas tarder à l'excès. Ah. Ça, c'est le premier point. Et il faut aussi parler avec les autres familles politiques du centre. Hervé Morin, les centristes, Jean-Christophe Lagarde et l'UDI. Il faut parler aussi avec les élus du territoire, parce que nous l'avons vu. Ceux qui ont fait l'élection
Monsieur le Président,
en partie.
Quand est-ce que vous allez agir, mis à part parler?
Ah mais non, on agit tous les jours. Et faites-moi confiance, nous agissons tous les jours. Nous sommes sur le terrain et nous avons un relais extraordinaire qui s'appelle plus de 300 000 élus territoriaux. On les a vus à l'œuvre dans les élections départementales et régionales.
On va conclure. Le président de la République va s'exprimer peut-être avant le 14 juillet. Parfois, on lit, on entend qu'Emmanuel Macron pourrait s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès. Vous l'excluez?
Écoutez, nous n'avons pas d'informations officielles, encore faut-il... D'abord, il s'était engagé à le faire chaque année, et il a oublié pendant 3 ans de le faire. Encore faut-il qu'il ait quelque chose à proposer et à dire. Ça lui appartient comme décision. Je n'ai pas d'informations à ce stade.
Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.